Bienvenue dans le Proof of Cast, le podcast francophone qui vous explique, qui vous raconte et qui vous démystifie les crypto-monnaies, les blockchains et les plateformes décentralisées. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 26 du Proof of Cast, le podcast francophone qui vous raconte, qui vous explique et qui vous démystifie les crypto-monnaies, la blockchain et les plateformes décentralisées. C'est Sébastien Arbogast qui vous parle en direct de Ubud, à Bali. Voilà, j'ai changé un petit peu d'endroit de nouveau, mais je pense que je vais rester là quelques temps. Aujourd'hui, on a une actualité un peu plus chargée. On a un édito de Plume, même s'il est enregistré en léger différé du studio où on enregistre. Et on a un petit peu d'actualité et surtout, on a un dossier du Proof of Cast, comme je vous l'avais annoncé un petit peu plus tôt dans la semaine sur nos réseaux sociaux. On va parler des applications décentralisées. Ensuite, quand on va parler d'actualité, on va aussi s'intéresser à ce qui se passe du côté de MakerDAO. On va parler aussi de on va parler de Bitcoin SV, on va parler d'ENS et enfin on va parler du nouveau cadre réglementaire développé en France. Comme je le disais, le sujet principal du dossier du Proof of Cast cette semaine, ce sera les applications décentralisées. Et si je ne m'abuse, notre ami Plume nous a préparé un petit édito en rapport avec ce sujet. Alors je vais rapidement passer la main et la parole et le micro à mon ami Plume, et puis on se retrouve juste après.
Chers crypto-auditeurs de tout sexe et de tout genre, bienvenue dans Proof of Cast, le podcast décentralisé. Enfin, pas tout à fait décentralisé, car Seb est le centre du petit univers du Proof of Cast dans lequel nous gravitons. Et si je dis centre de masse, je ne parle pas de régime ni de fitness. C'est avant tout parce que ce centre est constitué de matière grise. Les astronomes cherchent la matière noire dans l'immensité des galaxies. Il suffisait de regarder dans le cerveau de Seb. Et pourtant, ça tourne, comme disait un jour Stanley Kubrick sur le tournage de 2001, l'Odyssée de l'espace. Mais alors, qu'est donc la décentralisation ? La décentralisation, c'est ne pas avoir de centre, la palissade éhontée, mais phénomène géométriquement inimaginable, incompréhensible. Expliquer la décentralisation dans notre monde ultra-centralisé à tous les niveaux de pouvoir, c'est un peu comme expliquer l'athéisme aux théologiens du Vatican. Décentraliser, c'est avant tout de ne pas avoir un point de contrôle qui permettrait à un acteur unique de prendre le pouvoir. Bref, décentraliser, c'est « je veux faire ce que je veux sans qu'on m'en empêche ». C'est le terme politiquement correct pour anarchie. Et moi, ça me plaît. Dans la plupart des cas, ce « on » dont on ne veut pas qu'il nous empêche de faire quoi que ce soit, c'est l'État. Cela en dit long sur notre confiance en la démocratie. Plutôt que de voter pour des gens qui nous représentent, nous sommes prêts à investir des millions, que dis-je, des milliards d'euros pour programmer un Twitter décentralisé dans lequel le gouvernement ne pourra pas venir foutre sa merde. Faut dire qu'un gouvernement, c'est un bel exemple de centralisation à l'absurde. Un gouvernement, c'est une dizaine de personnes, censées représenter des millions. Et comment sont-elles choisies, ces personnes ? Parmi les pignoufles les plus roublards d'organisations centralisées et opaques appelées partis. Alors, partis, certainement, mais pas rendus, moi je vous le dis. Ces partis négocient entre eux des accords secrets appelés accords gouvernementaux. Pour arbitrer les négociations, chaque parti possède un nombre de points qu'on appelle aussi sièges, déterminés en partie par les votes des électeurs, mais en partie seulement parce que c'est surtout par les mécanismes de vote, référence au théorème de Harrow, et également par les découpages géographiques pas si aléatoires que ça. Et si vous ne me croyez pas, allez regarder la page gerrymandering sur Wikipédia. Ouais, je le fais avec l'accent, je sais, j'ai passé 10 ans à Oxford. Le siège en question est occupé par ce qu'on appelle un député. C'est une espèce de pouce-bouton surpayé qui va mettre sa conscience et sa morale au service du parti. C'est-à-dire que même s'il n'est pas d'accord, il va voter comme le parti lui dit de voter. Bref, finalement, les applications décentralisées, ça a un intérêt quand on voit la merde dans laquelle on est, démocratiquement parlant. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ne pas vouloir être contrôlé par l'État ne signifie pas forcément être immoral. Rappelez-vous, la légalité et la moralité sont deux axes parfaitement perpendiculaires. L'État capitaliste, comme le souligne David Graeber dans son excellent The Utopia of Rules on Technology, Stupidity and the Secret Joys of Bureaucracy. Là j'ai fait 10 ans à Oxford, et puis après j'ai fait 10 ans dans le reste de l'Angleterre. Oui, je sais, j'ai un accent, je vous le refais. The Utopia of Rules on Technology, Stupidity and the Secret Joys of Bureaucracy. Ah, punaise, hein, je suis fier, hein, quand je m'entends, j'ai l'impression d'entendre la version française de John Cleese, hein. Bon, ok, j'arrête. J'abandonne. Mais enfin, bon. Comme le dit David Graeber dans son excellent livre, le capitalisme, c'est avant tout la bureaucratie. Et oui, le libéralisme, contre-intuitivement, c'est de la bureaucratie. La Russie a doublé le nombre de ses fonctionnaires en passant du communisme au libéralisme. De la bureaucratie pour mettre en place les règles qui définissent un marché libre. Et qui est donc aussi libre que Ripple est décentralisé, si vous me suivez. Une bureaucratie qui est une violence tout à fait consciente du système afin de plier les esprits les plus rebelles. Avant, on crucifiait les Spartacus un peu révolutionnaires, on brûlait les sorcières un peu trop indépendantes pour des femmes. Aujourd'hui, on se contente de leur dire qu'ils doivent remplir le formulaire 47 bis de 60 pages en 2 exemplaires. Mais rassurez-vous, pour remplir ce formulaire permettant d'obtenir un petit financement pour remplir les formulaires pour obtenir un financement à long terme, nous mettons à votre disposition un fonctionnaire qui, par hasard, se trouve être un docteur en astrophysique. Mais qu'est-ce qu'un docteur en astrophysique fout là ? Eh bien, tout simplement, l'État centralisé n'a pas les budgets, n'a pas les sous pour payer un astrophysicien à faire de l'astrophysique, vous comprenez ? Alors on le paye à aider des gens à remplir des formulaires stupides. Ça, c'est bien. Je n'invente rien. Cette anecdote m'est arrivée réellement. Et si cet astrophysicien se reconnaît, je le salue au passage. Vivement la décentralisation. Qu'on foute un peu la merde dans ce système pourri et corrompu qui n'est pas... Je m'égare. Mais enfin non, pas tant que ça, finalement. Le problème des apps décentralisées, c'est qu'elles sont décentralisées. Et si on ne veut pas que le gouvernement mette son nez dans nos affaires, parfois on a quand même envie de contrôler ce qui se passe sur notre app. Un peu comme ces programmeurs qui régulièrement viennent demander pour faire du logiciel libre, mais qui interdisent l'utilisation par les militaires, les gouvernements de droite, les entreprises capitalistes, biffer la mention inutile. Bref, du logiciel libre, mais pas pour tout le monde. C'est d'ailleurs le principal argument contre la décentralisation.
Mais ça ne peut pas fonctionner si les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Les gens vont faire n'importe quoi, ou les gens vont se mettre à glander, ils seront pas efficaces.
À quoi je réponds toujours simplement, vous croyez qu'on peut vraiment faire moins efficace que le système actuel ? Je suis impatient de voir ça, hein ? Heureusement, la décentralisation, décentralisée, mais pas pour tout le monde, existe. Ouais. Il y en a un au fond qui a crié « Ripple, je vois qu'il suit, bravo !» Tu as droit à un gros bisou de Seb et toute mon admiration. Non mais le plus drôle, c'est que nous tentons de nous protéger du pouvoir de l'État, un organisme ultra-centralisé certes, mais sur lequel nous avons encore un faible moyen d'action. Alors que pour nous indigner, pour lutter contre l'État, pour sauver la planète, pour occuper notre temps libre aussi, nous donnons avec joie un pouvoir sans limite à une grosse multinationale dont le business est de contrôler nos cerveaux et de nous formater Facebook. Parce que c'est bien de vouloir des apps décentralisées sur la blockchain et tout ça, mais entre nous là, sur le ton de la confidence, vous êtes combien à avoir abandonné Facebook et Twitter pour Mastodon ? C'est une alternative beaucoup moins centralisée qui existe et qui fonctionne. Quoi ? Ah non, c'est peut-être pas aussi bien que Facebook ? Tati Manou n'est pas sur Mastodon ? Bon, eh bien, malheureusement, je vais vous le confier, il y a beaucoup de chances que sur la blockchain, ce soit pareil, soit même pire. Alors, pour regagner sa liberté par la décentralisation, la première étape, c'est peut-être de décentraliser nos cerveaux. Allez, moi je dis ça, je dis rien, je vous laisse avec Seb et je replonge dans la lecture de Digital Minimalism, le dernier livre de Cal Newport, que je vous conseille chaudement.
Voilà, encore un magnifique édito de Plume. Vous allez voir, tout ce qu'il raconte est dans le sujet. Et effectivement, ce podcast est malheureusement très centralisé autour de Bibi. Je le regrette, mais voilà, si vous voulez participer, il existe un moyen, il existe des canaux. Hop là, la petite transition toute faite. Rappelez-vous que s'il y a des choses qu'on évoque dans ces podcasts et qui ne sont pas claires ou vous auriez besoin de plus de précision ou plus d'explications, n'oubliez pas que vous pouvez posez vos questions et laissez vos commentaires, soit sur le blog sur proofofcast.com, en rapport des blog posts qu'on publie à chaque épisode, soit sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Twitter, via les comptes proofofcast. Très original. Donc, n'oubliez pas que vous pouvez nous interpeller par ce biais-là. Il se trouve que cette semaine, on n'a pas de dossier de questions des auditeurs. Donc, on va passer directement au dossier de cet épisode consacré donc aux applications décentralisées. Alors, on va revenir sur ce sujet un petit peu plus en détail. Laissez-moi reprendre mes notes. Voilà, voilà. Alors, on va parler déjà de. Quand on dit application décentralisée, ça implique de positionner ça par rapport aux applications centralisées. Alors, comment est structurée typiquement une application classique dite centralisée ? Une application, qu'elle soit web, mobile ou que vous deviez l'installer sur votre ordinateur, elle est typiquement divisée en deux parties. Vous avez d'un côté le front-end, c'est-à-dire l'interface utilisateur qui s'exécute sur votre ordinateur, sur votre téléphone ou dans votre navigateur et qui vous permet d'interagir avec l'application souvent de manière visuelle. Et de l'autre côté, vous avez le back-end, ce qu'on appelle le back-end, qui s'exécute à distance, généralement sur un serveur et avec lequel le front-end interagit dès qu'il a besoin de partager des données. Donc sur le back-end, vous avez généralement une base de données qui stocke les informations de tous les utilisateurs. Vous avez aussi souvent des systèmes d'identification qui s'assurent que chaque utilisateur accède uniquement à ces données. Et diverses autres interfaces d'intégration avec d'autres systèmes back-end. Voilà, on peut faire à peu près ce qu'on veut en général sur ce genre de back-end. Maintenant, attention, je dis pas que toutes les applications ont un back-end. Certaines applications n'ont qu'un front-end, n'ont qu'une interface utilisateur et n'ont pas besoin de partager des données avec d'autres utilisateurs. Auquel cas, elles stockent simplement leurs données sur la machine sur laquelle le front-end s'exécute. Maintenant, c'est de plus en plus rare. Si vous pensez même à des applications comme Photoshop ou des choses comme ça qui permettent avant tout, de traiter des fichiers multimédia, de fabriquer des images et tout ça, même elles consultent régulièrement le back-end d'Adobe, ne serait-ce que pour des raisons statistiques ou tout simplement pour vérifier que vous avez bien payé votre abonnement pour ce qui est de la formule qui va bien dans ce cas-là. Bref, le truc c'est que dès qu'il y a un back-end, fatalement il y a centralisation des données des utilisateurs avec tous les risques que ça crée en termes d'abus dans l'utilisation de ces données par les fournisseurs du service, un petit rappel à Facebook, et aussi en termes de vol de ces données. Parce que c'est beaucoup plus facile de voler une grande quantité de données quand elles sont toutes stockées au même endroit, tant qu'à faire. À noter que, au passage, dans une application web, le front-end lui-même n'est généralement pas installé sur le téléphone ou sur l'ordinateur de l'utilisateur, mais il est chargé dynamiquement sur celui-ci, depuis le back-end, à chaque utilisation de l'application. Ce qui veut dire qu'il existe potentiellement aussi des risques que le système devienne complètement inutilisable en cas de panne du back-end. Dans ce cas-là, vous pouvez même pas charger le front-end, vous pouvez rien faire. Voire même que vous vous retrouviez à charger un front-end frauduleux qui envoie des données autre part que sur le back-end auquel elles étaient destinées au départ. Donc tout ça, c'est des risques, voilà, c'est des limitations liées à aux applications classiques, aux applications centralisées. Alors, en quoi justement une application décentralisée se différencie de ce cas de figure ? Alors, dans une application décentralisée, ce qui se passe, c'est qu'en général, le rôle du back-end est joué par un ensemble de smart contracts, c'est-à-dire des programmes informatiques qui s'exécutent non pas sur un petit ensemble de serveurs, mais sur l'ensemble des nœuds d'une blockchain. Dans un tel système, chaque utilisateur a la possibilité de se connecter à la blockchain par ses propres moyens et donc d'interagir avec elle en s'affranchissant de tous les intermédiaires pour interagir directement avec les smart contracts via l'interface utilisateur du front-end. Donc il n'y a plus d'état de serveur, etc. auquel on doit se connecter. On se connecte directement à un nœud de la blockchain et avec le contrat qui tourne sur chacun des nœuds avec toute la synchronisation qui se fait en tâche de fond sans qu'on ait à s'en occuper. Le front-end lui-même peut idéalement aussi être décentralisé, soit en nécessitant l'installation d'une application mobile ou d'un client lourd sur votre ordinateur, c'est-à-dire d'un logiciel concrètement, soit en permettant de charger les pages web dans le browser depuis un service de stockage lui-même décentralisé. Mais on va revenir sur cette possibilité plus tard. Alors, ce qui est le plus important, évidemment, c'est de se demander c'est quoi les impacts pour, d'abord pour les utilisateurs. Alors, cette distribution du code du back-end, ça offre un certain nombre de garanties. D'abord, une fois déployé et identifié par une adresse unique, en général, quand on déploie un smart contract, il récupère une adresse. Alors, à ce moment-là, vous avez la garantie qu'un smart contract se comportera toujours de la même manière dont il se comportait à son déploiement, puisqu'on ne peut pas modifier le code d'un smart contract in situ. Donc à partir du moment où vous avez une adresse, le code qui tourne dessus ne peut pas être modifié. Ensuite, la blockchain étant résistante à la censure, personne ne peut vous couper l'accès à un smart contract, à part le smart contract lui-même, en fonction des règles définies par son code. D'accord ? Autre avantage, puisque la blockchain est transparente, vous avez toute la visibilité nécessaire sur les interactions qui ont lieu avec le smart contract. Tout est auditable, en fait. Et en particulier, personne ne peut rien faire en votre nom sinon pas vos clés privées. Ce qui est quand même assez sympathique. Au passage, ça veut dire aussi que vous pouvez pas renier quelque chose que vous avez fait et signé avec votre clé privée. Aussi, ça veut dire que vous avez une visibilité totale sur les informations qui sont stockées dans le smart contract et vous pouvez ne fournir que le strict nécessaire pour la réalisation du service attendu. Donc vous n'avez pas besoin, comme sur Facebook par exemple, de leur envoyer toutes vos données sur votre vie privée parce qu'ils vous le demandent au cas où ils en auraient besoin. Dans le cas d'un smart contract, vous devez de toute façon être assez frugal dans les données que vous partagez et en plus vous pouvez tout voir, donc ils n'ont aucun intérêt à vous demander des trucs dont ils n'ont pas vraiment besoin. Et enfin, vous avez la garantie que tant qu'il ne sera pas désactivé, donc tant que le smart contract ne sera pas désactivé, vos données resteront disponibles et les smart contracts resteront accessibles. En sachant que vous avez aussi la possibilité de savoir dans quelles conditions et par qui un contrat peut être désactivé. Maintenant, évidemment, toutes ces garanties, elles viennent avec un prix, et même plusieurs prix. D'abord un prix très littéral, puisque chaque écriture de données dans un smart contract coûte un petit peu d'argent. Dans le cas d'Ethereum, c'est ce qu'on appelle du gaz, par exemple. C'est on doit payer pour stocker des informations dans un smart contract. Et le montant à payer est à payer par la personne qui demande le stockage, donc qui appelle concrètement une fonction, qui lance une interaction, une transaction avec un smart contract qui va stocker des informations. Donc, il y a un petit montant à payer à chaque fois qu'on veut écrire dans un smart contract. Donc, pour interagir avec une application décentralisée, il vous faut un wallet sur la blockchain avec suffisamment de fonds dessus pour payer ces interactions, ces transactions. Il y a aussi un deuxième prix qui est en termes d'utilisabilité, puisque ces paiements, ces transactions et tous les mécanismes associés, ça requiert une bonne compréhension du fonctionnement de la blockchain et ça vous demande, en tant qu'utilisateur, un petit peu plus de travail qu'une application classique. Et un prix aussi en termes de sécurité, enfin, puisque ces systèmes nécessitent généralement que vous soyez en charge de votre propre sécurité et du contrôle de vos clés d'accès, de vos clés privées. Il n'y a pas de procédure de récupération d'une clé privée perdue, de forgot password, ça n'existe plus. Vous n'avez pas de recours en cas de vol de votre clé privée. Encore une fois, vous ne pouvez pas renier quelque chose qui a été fait avec votre clé privée et vous êtes responsable de la sécurité de cette clé privée. Autrement dit, comme le disait Tonton Spider-Man, grand pouvoir, grande responsabilité. Maintenant, on a parlé des impacts pour les utilisateurs. Évidemment, ça a aussi des impacts pour les développeurs. Ça intéressera peut-être les développeurs parmi vous. Le principal bénéfice pour les développeurs, c'est l'intégration dans la même infrastructure d'un système de base de données, d'un système d'authentification et d'un système de paiement. Donc tout ça est fourni, je dirais, de fait par la blockchain elle-même. Et donc, ça ouvre de nombreuses possibilités en termes de développement d'applications. Ensuite, une fois déployé, un smart contract ne coûte absolument rien à héberger sur la blockchain, en tout cas pour l'instant. Ça pourrait changer sur Ethereum, par exemple s'ils se mettent à implémenter un système de loyer pour le stockage des données dans les smart contracts, mais c'est pas encore d'actualité. Pour l'instant, vous payez uniquement pour le stockage initial, pour déployer le smart contract sur la blockchain elle-même, et une fois qu'il y est, il n'y a plus rien à payer. Donc ça, c'est un contraste par rapport à des services d'hébergement web classiques pour ceux qui ont déjà déployé ce genre d'application sur Amazon Web Services, par exemple. Maintenant, évidemment, il y a aussi des contraintes, et notamment les contraintes liées à l'immutabilité du code des contrats. C'est-à-dire que, en gros, puisque vous ne pouvez pas modifier les contrats in situ une fois qu'ils ont été déployés, il devient absolument critique de tester son code sous toutes les coutures avant de le déployer et même de prévoir des mesures d'urgence au cas où, quand même, un bug imprévu se serait glissé à travers les mailles du filet. Ça veut dire que une fois le code déployé, impossible de le corriger ou de le faire évoluer. Donc la seule solution consiste à déployer une nouvelle version de votre contrat en parallèle de l'ancienne, de migrer les utilisateurs et les données de l'ancien vers le nouveau contrat, et ensuite, une fois que c'est fait, de désactiver l'ancienne version. Tout ça, c'est assez complexe, et donc ça crée une responsabilité et une lourdeur supplémentaire dans la création d'applications décentralisées par rapport à leurs équivalentes centralisées. Et alors, le dernier impact que je voulais quand même évoquer, c'est l'impact en termes de business model, de modèle économique. Le fait est que la criticité du code des smart contracts rend quasi indispensable la publication de leur code source de manière à augmenter le nombre de paires d'yeux qui peuvent y détecter d'éventuels bugs. Donc c'est pour ça que vous avez la plupart des applications décentralisées qui sont open source. Donc en tout cas, le code des smart contracts lui-même est lisible par tout un chacun. Le but aussi de cette manœuvre, c'est de rassurer les utilisateurs sur ce que fait effectivement le smart contract avec leurs données et puis accessoirement avec leurs fonds aussi. Donc tout ceci combiné avec la transparence des données invalide de fait la plupart des modèles économiques basés sur soit les secrets de fabrication ou sur ce qu'on pourrait appeler la protection sélective des données, c'est-à-dire un petit peu le modèle de Facebook. Donc oubliez les modèles d'intermédiaires avec commission prélevée au passage, parce que n'importe qui pourrait prendre le code source et le modifier pour publier une nouvelle version de vos smart contracts sans la commission et donc attirer vos utilisateurs vers leur alternative. Oubliez aussi tous les modèles basés sur la revente de données de consommateurs un peu à la Facebook, puisque tout le monde a accès aux mêmes données et qu'en plus, celles-ci sont relativement restreintes. Donc, ça leur enlève un peu toute leur valeur. Donc, de fait, la décentralisation vous pousse à être créatif sur le modèle économique qui vous permet de financer le développement des smart contracts et de l'application décentralisée qui les utilise. Vous pouvez par exemple créer une application hybride dans laquelle la partie décentralisée permet aux utilisateurs d'interagir directement entre eux, mais avec un composant centralisé optionnel pour faciliter la mise en relation des utilisateurs entre eux, par exemple. Après, évidemment, ce composant centralisé-là, vous pouvez demander une espèce d'abonnement. Mais encore une fois, ça ne peut qu'être optionnel puisque rien n'empêche aux gens d'interagir directement via les smart contracts. Ou alors, vous pouvez aussi mettre en place une économie interne à l'application, basée sur des tokens par exemple, et ces tokens peuvent prendre de la valeur avec l'augmentation du nombre d'utilisateurs et des interactions entre ces utilisateurs. Et de fait, du coup, vous pouvez extraire une plus-value de cette espèce d'effet réseau que vous créez. Et il y a pas mal d'applications qui se financent comme ça aussi. Et puis, il y a certainement encore plein d'autres modèles à inventer, et c'est justement un des défis de ces applications décentralisées, c'est d'être créatif au niveau des modèles économiques. Alors, il y a quand même quelques déviations possibles, quelques risques liés au développement d'applications décentralisées. Le plus gros risque, la plus grosse tentation, je dirais, c'est celle de la recentralisation. C'est-à-dire que devant la complexité pour les utilisateurs de gérer leur propre wallet ou de payer pour leurs interactions, beaucoup de fournisseurs de services ont tendance à déporter les interactions avec les smart contracts sur le back-end. C'est-à-dire de plus faire ça directement sur le front-end, mais de le faire sur un serveur quelque part. L'objectif étant de tenter de masquer la complexité d'une décentralisation, mais en fait, quand vous faites ça, il n'y a plus de décentralisation, donc elle n'a plus vraiment lieu d'être. Donc vous rajoutez juste de la complexité à un système qui devient centralisé. Et en plus, en faisant ça, le risque, c'est de créer un risque colossal en stockant les clés privées des utilisateurs dans une base de données centralisée. Et là, vous voyez arriver, gros comme une maison, le risque d'usurpation d'identité. Et c'est exactement pour ça que de plus en plus de développeurs travaillent au contraire à simplifier l'expérience utilisateur, que ce soit au sein même des navigateurs qui permettent d'accéder à ces applications, mais on va y revenir, ou alors dans les mécanismes qui permettent de payer pour les interactions avec les smart contracts, le gaz et tous ces machins-là. Donc justement, il y a encore, on en a parlé notamment après la DEFCON Ethereum en fin d'année dernière, il y a tout un tas de projets de recherche qui tournent autour de ça, sur comment on peut amener les gens à comprendre ce système de gaz sans les surcharger mentalement dès le départ. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que d'utiliser la blockchain pour développer une application qui, au final, est centralisée, c'est complètement inutile et bien trop complexe par rapport à ce que ça apporte. Mais d'un autre côté, le potentiel des applications décentralisées va bien au-delà des simples applications purement monétaires ou voilà, des crypto-monnaies typiquement, grâce justement à ce concept des smart contracts. Alors vous allez me dire, ouais, mais du coup, c'est bien joli tout ça, c'est très théorique. Où est-ce qu'on peut trouver des exemples de DApp? Alors d'abord, pour pouvoir héberger une application décentralisée, une blockchain doit permettre le développement et le déploiement de smart contracts. Vous l'aurez compris, c'est un petit peu le concept qui est au centre de tout ça. C'est possible évidemment avec la blockchain Ethereum, on en a souvent parlé, mais pas seulement. D'ailleurs, si vous allez regarder sur certains des sites que je vais vous référencer après, la plupart des applications décentralisées les plus populaires aujourd'hui tournent sur d'autres blockchains comme EOS ou encore Tron, qui sont parmi les blockchains les plus, les blockchains génériques, c'est-à-dire celles qui peuvent faire tourner des smart contracts, les plus répandues. Ensuite, la plupart de ces applications décentralisées les plus populaires aujourd'hui sont soit des applications financières, type échange décentralisé par exemple, soit des jeux ou des systèmes de paris. Donc c'est encore le scope est encore assez limité. Vous avez beaucoup de gens sur ces applications-là, mais il n'y en a pas énormément non plus. Après ça, il existe aussi d'autres applications qui rentrent dans la catégorie des applications décentralisées, qui jouent un rôle important dans l'écosystème sans forcément nécessiter des interactions régulières ou un grand nombre d'utilisateurs. C'est le cas par exemple de ENS ou de MakerDAO, dont on va parler plus en détail dans les actualités de cet épisode. Alors comme je le disais, il existe un certain nombre d'annuaires qui référencent la plupart des DApps qui sont, donc ce qu'on appelle des DApps encore, c'est les Decentralized Applications, en cours DApps, qui sont déjà en production et qui se comptent en quelques milliers. On n'est pas non plus dans le monde merveilleux du web encore, c'est encore tout jeune. Alors vous pouvez aller voir par exemple le site d'AppRadar ou encore app.co, tous les liens sont évidemment dans le blog comme d'habitude. Alors, on peut quand même pas parler d'application décentralisée sans évoquer un concept dont vous avez peut-être déjà entendu parler qui s'appelle le Web 3.0. Ce concept était un peu à la base des idées, des discours à l'origine de la création d'Ethereum dans les années 2014-2015 et reste encore présent dans de nombreuses technologies en développement. Par exemple, la librairie la plus populaire pour connecter un front-end web avec la blockchain Ethereum s'appelle le Web 3. Il n'y a pas de hasard. L'idée directrice derrière tout ça, c'était la constatation que l'Internet au départ avait été conçu comme un système décentralisé jusqu'au protocole du World Wide Web. Mais que quelque part sur le chemin, la tentation de la centralisation des données et du pouvoir associé avait été trop forte, ce qui a amené au gigantesque monopole destructeur que peuvent être aujourd'hui Google, Amazon, Facebook et tous ces services en ligne qui s'accaparent un petit peu nos données. Résultat des courses, on a abouti à un web 2.0 finalement hyper centralisé qui a succédé au web 1.0 un peu utopique et académique des années 90. Et justement, les penseurs de la blockchain ont vu dès le départ dans les smart contracts et les blockchains génériques qui les hébergent une opportunité pour les utilisateurs de reprendre le contrôle de leur identité et de leurs données tout en s'appuyant sur les mêmes technologies de l'Internet décentralisé tel qu'il avait été conçu au départ et même en réutilisant les technologies du web comme HTML, CSS ou encore JavaScript ainsi que les navigateurs qui les interprètent. Donc, tout ça, on jette pas tout par la fenêtre, on garde ce qui est intéressant, mais on essaye de se passer de cette centralisation des données. Alors, qu'est-ce qui manque pour arriver à ce fameux Web 3.0, à ce nouveau web vraiment décentralisé? Premier élément, le stockage et le service décentralisé des fichiers multimédia. On en a parlé avant. Un des principaux obstacles aujourd'hui au déploiement et au développement de ces applications, c'est que la blockchain elle est conçue pour stocker des petits volumes de données transactionnelles, mais pas du tout pour stocker des gros fichiers multimédia. Et même des fichiers HTML, JavaScript, CSS, des images, des vidéos, tout ça, ça rentre pas du tout dans une blockchain. Ça coûterait beaucoup trop cher de stocker ce genre de données-là dans une blockchain. Pour ça, il faut encore développer d'autres systèmes de stockage décentralisés, notamment de stockage de fichiers décentralisés, qui vont nécessiter leur propre mécanisme économique pour motiver un grand nombre de nœuds à stocker des copies de ces fichiers pendant suffisamment longtemps. Et c'est notamment le rôle que se sont donnés des projets comme IPFS ou encore Swarm, dont on a déjà parlé dans d'autres épisodes précédents. Mais il se trouve que ces projets sont soit très longs à aboutir, c'est le cas de Swarm par exemple, qui est en construction depuis le début d'Ethereum et dont on n'a pas encore vu la couleur d'une première release, ou alors des systèmes comme IPFS qui sont très intéressants, mais qui imposent encore des trade-offs, des compromis qui sont pas toujours très pratiques dans la réalité. Autre élément manquant pour aller, on va dire, que ces applications-là soient plus populaires, c'est une meilleure pénétration de ce qu'on appelle les DAB browsers, c'est-à-dire les navigateurs adaptés à la consultation et à l'utilisation d'applications décentralisées. Sur le web, pour accéder à des applications décentralisées, il vous faut un navigateur qui permette à la fois de stocker des wallets blockchain de manière sécurisée, mais aussi d'utiliser ces wallets pour établir une connexion sécurisée avec un nœud blockchain qui soit local ou distant. Et ensuite, évidemment, d'utiliser cette connexion pour signer les transactions de la manière la plus simple possible. Le navigateur d'app le plus populaire aujourd'hui sur Ethereum, par exemple, c'est MetaMask, qui nécessite l'installation d'une extension, que ce soit dans Chrome, Firefox ou encore Edge, ou alors l'installation d'un browser dans lequel ce genre de wallet est naturellement intégré, comme Brave par exemple, qui intègre déjà MetaMask. Il se trouve que l'interface de cette extension évolue toujours vers plus d'utilisabilité, mais elle reste encore instable, buggée, et surtout elle n'est pas installée par défaut dans les navigateurs les plus populaires, comme je le disais. Seuls certains navigateurs marginaux, comme par exemple Opera ou encore Brave, dont je parlais, intègrent nativement ces fonctionnalités. Le résultat, c'est qu'on a une pénétration insuffisante et donc une éducation nécessaire des utilisateurs pour installer et ensuite savoir comment utiliser ces espèces de plugins pour les browsers. D'ailleurs, c'est l'obstacle suivant que je voulais évoquer, c'était celui de l'éducation des utilisateurs. C'est une autre limite. Encore trop peu d'utilisateurs du web ou d'Internet comprennent déjà l'intérêt de telles applications décentralisées. Une plus petite proportion encore de ce nombre-là comprend vraiment les avantages et surtout les limites de ces systèmes et la responsabilité qui leur incombe quand ils utilisent une application décentralisée. Et alors, je vous parle même pas du nombre effectif d'utilisateurs actifs de ces applications. Donc tout ça limite encore une fois la population à laquelle vous vous adressez quand vous développez une application décentralisée. Et pour couronner le truc, pour finir d'achever le tableau, si on s'intéresse un petit peu au côté développeur de la chose, il se trouve que les technologies sont encore jeunes et assez primaires pour les développeurs. La courbe d'apprentissage peut sembler parfois longue par rapport à l'impact qu'on peut avoir étant donné le faible nombre d'utilisateurs. Et en plus, on manque encore d'une bonne intégration des librairies web, comme Web3 par exemple, notamment dans les frameworks JavaScript qui sont utilisés aujourd'hui pour développer la plupart des front-end web comme React, Angular, Vue et j'en passe et des meilleurs. Ça arrive, c'est en cours de travail, hein, il y a des choses chez Truffle par exemple qui développe un framework qui s'appelle Drizzle qui permet d'intégrer des choses dans Web3 dans une application React. C'est peut-être des termes techniques, mais voilà, il y a des technologies qui commencent à se développer, mais ça met du temps et en même temps on est un peu impatient quand on est développeur et qu'on voit le potentiel que ça peut avoir. Et alors, ce qui est probablement le principal obstacle pour les développeurs, c'est que l'infrastructure des blockchains elle-même a déjà montré ses limites en termes de performance et de vitesse des transactions qu'elle pouvait supporter. Hein, on a bien vu ce qui s'est passé quand CryptoKitties, par exemple, qui est un jeu qui existe toujours, a atteint le pic de sa popularité. Ben, l'application a tout simplement mis toute la blockchain Ethereum à genoux pendant quelques jours. Donc visiblement il y a encore beaucoup de travail à faire, que ce soit sur l'infrastructure elle-même, sur les outils de développement et bien sûr sur les applications elles-mêmes pour aller convaincre toujours plus d'utilisateurs. Maintenant, il faut se rappeler toujours qu'au bout du tunnel, on parle d'un nouveau web, un web vraiment décentralisé, dans lequel encore une fois les utilisateurs pourraient reprendre le contrôle de leur identité et de leurs données. Ce qui semble de plus en plus nécessaire à chaque nouveau scandale Facebook, à chaque vol de données ou à chaque intrusion d'un gouvernement inapte dans nos affaires privées. Je vous rappelle les histoires avec Edward Snowden, Prism et toute cette sorte de choses. Donc, tout cela étant dit, vous allez me dire, mais comment du coup, moi je suis développeur ou aspirant développeur, comment je crée une application décentralisée sur Ethereum? Et c'est là que je vais me permettre un petit shameless plug, hein, si vous me permettez, sur le cours Udemy. Donc, vous le saurez peut-être si vous avez écouté le podcast jusqu'ici, avec mon acolyte Saïd El Oudrighi, on avait créé il y a quelques années déjà la structure Chain Skills, qui est une espèce de partenariat, mais dans au sein duquel on a développé ce cours en ligne qui explique en détail non seulement ce qu'est une blockchain, mais aussi comment l'utiliser pour développer cette nouvelle forme d'application décentralisée, notamment en utilisant la plateforme Ethereum. Dans ce cours, on montre à la fois comment créer un projet d'application décentralisée depuis zéro, comment utiliser le langage Solidity pour créer des smart contracts, comment utiliser le framework Truffle pour compiler, tester et déployer ces smart contracts, et d'abord sur un émulateur de blockchain comme Ganache, puis sur les réseaux de test Ethereum en utilisant l'implémentation Go Ethereum. Et même, on montre comment déployer des smart contracts sur le réseau public Ethereum, notamment en utilisant des nœuds déportés Infura. Et surtout, on vous montre comment tous ces outils travaillent ensemble pour créer un environnement de développement relativement puissant et intégré quand même. Tout ça, c'est disponible en à peu près 16 heures de vidéo sur la plateforme d'éducation en ligne Udemy. Peut-être que vous connaissez pas encore Udemy, c'est une espèce de grande place de marché avec plein de cours en ligne, la plupart, enfin pour la grande majorité en vidéo. Alors je vais pas vous mentir, hein, Udemy a un marketing très agressif qui vous permet d'accéder à la plupart des cours pour environ 10 euros ou à peine plus la plupart du temps. Mais on vous a quand même fait un code Proof of Cast, qui vous permet de bénéficier de la même promotion à 10 euros, avec une différence majeure, c'est que contrairement aux promotions faites par Udemy eux-mêmes, qui leur permettent de récupérer 50% des revenus, le code Proof of Cast nous permet de récupérer 97% des revenus. Donc si vous êtes développeur et que vous pensiez acquérir ce cours de toute façon, si vous le faites avec le code Proof of Cast, vous nous aidez encore plus à développer d'autres cours et d'autres contenus éducatifs, comme par exemple le podcast que vous êtes en train d'écouter en ce moment même. Donc voilà, la boucle est bouclée. On ne pouvait pas parler évidemment d'applications décentralisées sans vous parler de ce cours, en sachant que le cours est est en train d'être mis à jour, parce que justement tous ces outils évoluent très vite, ces technologies évoluent très vite, et donc on est régulièrement obligé de faire des réenregistrements d'une grande partie du cours. On est en train de faire ça en ce moment. La mise à jour devrait être publiée dans les semaines qui viennent. Ça prend beaucoup plus de temps qu'on avait prévu, parce que justement les outils sont un peu instables, mais on est en train de terminer cette mise à jour, et même si vous achetez le cours maintenant, vous pourrez avoir la mise à jour gratuitement. Elle sera gratuite pour tous les étudiants inscrits en ce moment sur le cours. Donc allez-y, n'hésitez pas, n'attendez pas, ça nous fera plaisir. Et c'est là-dessus que je vais conclure ce petit dossier sur les applications décentralisées. Comme d'habitude, je vous rappelle, s'il y a des choses qui sont pas claires là-dedans, si vous avez des précisions à apporter, peut-être des choses que j'ai oublié d'évoquer, si vous avez des questions que vous pouvez poser encore, n'hésitez pas vraiment à laisser vos commentaires sur le blog de l'émission, sur proofcast.com, ou sur Twitter ou sur Facebook, et on se fera un plaisir d'y répondre dans les prochains épisodes. Voilà pour le dossier du Proof of Cast. Passons maintenant aux actualités. Finalement, il y avait quelques éléments assez intéressants, j'ai trouvé. Cette semaine, j'ai même dû condenser un petit peu. Alors, je vais essayer d'être aussi efficace et aussi efficace, oui, avec un Z. Aussi efficace et aussi économe de mon temps que possible. Mais il y a quand même des choses très intéressantes. Et on va commencer par MakerDAO. Alors, ça m'a donné l'occasion personnellement de me renseigner un peu plus sur MakerDAO, parce que j'en ai beaucoup entendu parler ces derniers temps, et je dois avouer que j'étais pas encore très familier de ce que c'était exactement. Donc là, j'aime bien aussi utiliser l'actualité pour plonger un petit peu plus dans ce genre de sujet. Alors, si vous vous intéressez un peu à la blockchain, vous avez certainement entendu parler du concept de stablecoin. L'idée, c'est de créer une espèce de crypto-token ou une crypto-monnaie qui puisse bénéficier de tous les avantages d'une crypto-monnaie, justement, passer facilement à travers les frontières, ne pas nécessiter de compte en banque, bypasser tous les intermédiaires financiers, etc., mais sans pour autant pâtir de la volatilité d'un crypto-token classique. Donc l'idée, c'est d'indexer la valeur de l'actif crypto sur un autre actif qui lui est non crypto, comme par exemple une monnaie fiat, typiquement le dollar US par exemple. Du coup, le nombre de tokens en circulation ne doit pas suivre une inflation algorithmique, comme c'est le cas pour une crypto-monnaie classique comme le Bitcoin ou l'Ether, par exemple. Et sa valeur ne doit pas non plus être fonction de l'offre et de la demande ou de la masse monétaire en circulation. Donc ça, c'est des contraintes, c'est des nécessités quand on veut créer ce qu'on appelle une stablecoin. Maintenant, la façon la plus simple et la plus intuitive, la plus naïve, je dirais, de maintenir ce pont, c'est-à-dire de maintenir cette indexation entre un actif crypto et un actif non crypto, c'est de bloquer une réserve de l'asset non crypto, de l'actif non crypto, quelque part, et d'émettre la quantité équivalente de token. Donc c'est, en gros, c'est un peu comme à une certaine époque, le dollar était indexé sur l'or, mais pour ça on devait maintenir des réserves d'or équivalentes à la quantité de dollars en circulation. Ben là c'est un peu la même idée avec les actifs crypto. On tient un compte en banque avec un certain montant en dollars dessus et on n'émet de nouvelles crypto-monnaies que dans la mesure où elles sont équivalentes à la quantité de dollars qu'on a en réserve. Et donc ça veut dire aussi que quand des personnes déposent de nouvelles quantités de dollars, eh ben on peut du coup émettre un peu plus de crypto-monnaies. Et inversement, quand ils récupèrent leurs dollars, on doit sortir la crypto-monnaie correspondante de la circulation pour maintenir toujours cette équivalence, pour maintenir ce taux de conversion, typiquement un token égale un dollar. Le problème, c'est que il est vraiment tentant pour l'organisation qui contrôle ses réserves de monnaie fiat, par exemple, d'émettre plus de tokens que ce qu'elle a en réserve, justement, histoire de faire artificiellement gonfler l'intérêt du token. Donc, la question qui se pose, c'est qui surveille le stock d'actifs non crypto et notamment, qui surveille que ce stock continue à correspondre au nombre de tokens en circulation ? Si vous introduisez ce genre de surveillance, en général, c'est une surveillance centralisée. Donc de nouveau, vous centralisez énormément de pouvoir dans les mains soit d'une société, soit d'un petit groupe, soit d'un gouvernement, etc., etc. Et c'est typiquement le problème qui se pose aujourd'hui, par exemple, avec Bitfinex, qui est une plateforme d'échange de crypto-monnaies qui vous permet d'acheter et de vendre des crypto-monnaies contre des dollars, des euros, etc., qui avait créé il y a quelques années déjà son propre stablecoin qui s'appelle Tether, dont le symbole est USDT. Et ce Tether, il est indexé sur le dollar US, justement. Et la même société administre aussi bien Bitfinex, la plateforme d'échange, que Tether, le stablecoin indexé sur le dollar US. Et ça fait déjà plusieurs mois que Tether est soupçonné justement de ne pas avoir les réserves en dollars suffisantes pour justifier la valeur de son token. Donc d'avoir déjà créé un petit peu de l'inflation autour de ça. Et justement, il y a quelques jours, mais littéralement il y a quelques jours, il y a eu un petit tremblement de terre dans le monde des cryptos, justement parce que l'avocat général du district de New York a publié des infos concernant une enquête qui aurait découvert que Bitfinex avait utilisé entre 600 et 700 millions de dollars des réserves de Tether pour couvrir partiellement une perte de 850 millions de dollars de Bitfinex. Et ce, bien évidemment, sans informer ni les clients de Bitfinex, ni les détenteurs de tokens USDT. Donc vous voyez bien le conflit d'intérêts gigantesque qu'il peut y avoir là derrière, c'est-à-dire qu'on a tapé dans la réserve. Qui dit taper dans la réserve, dire typiquement retirer la somme équivalente en USDT pour maintenir le taux de conversion, sauf que c'est pas du tout ce qui a été fait, et on a utilisé cet argent pour aller couvrir une perte dans une autre société. En tout cas, c'est ce que l'avocat général, encore une fois, de New York avance. Alors, apparemment, la perte de ces 850 millions de dollars, ce serait pas vraiment une perte, mais ce serait dû à certains opérateurs et intermédiaires bancaires qui auraient bloqué des fonds, et donc la capacité pour Bitfinex de répondre à certaines demandes de retrait de ses clients. Vous avez des clients qui ont demandé à récupérer leurs dollars, et puis tout d'un coup, Bitfinex lui a dit « Ouais, mais attends deux secondes, parce que j'ai tel opérateur derrière qui tient mon compte en banque et qui me dit qu'il veut pas me donner ton argent. » Donc, évidemment, Bitfinex s'est retrouvé un petit peu dans la merde et ils auraient, a priori, utilisé une partie des fonds de réserve de Tether pour couvrir ces demandes de retrait. Alors, d'un autre côté, Bitfinex se défend en disant que la publication de certaines informations, de ces informations-là, par l'avocat général de New York est pleine de fausses infos et va à l'encontre des intérêts à la fois des clients de Bitfinex et des possesseurs de token Tether. Mais toujours est-il que si tout ça n'était pas si centralisé, l'avocat général n'aurait pas la possibilité d'attaquer le système comme il le fait. Alors, encore une fois, est-ce qu'il l'attaque ou est-ce qu'il défend les utilisateurs? Ça, c'est à chacun de voir midi à sa porte. Mais toujours est-il que c'est la centralisation qui crée cette situation. Donc on en revient encore une fois toujours à ce problème de centralisation avec les stablecoins. Et le problème, c'est que comme ces mouvements sont liés à une énorme plateforme d'échange centralisée comme Bitfinex, tous les gens, les gens perdent en confiance dans Bitfinex, ce sont toutes les crypto-monnaies qui en pâtissent. Pas seulement le Tether. Donc toutes les crypto-monnaies qui sont tradées sur une plateforme comme Bitfinex, prennent un peu de plomb dans l'aile parce que les gens soit revendent, soit font sortir leur fonds de Bitfinex pour aller le mettre ailleurs. Et donc tout ça, ça crée des mouvements de fonds qui influent évidemment sur la valeur des crypto-monnaies. La raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est, alors déjà il y avait cette actualité là qui était importante, hein, ce scandale qui est en train de se développer autour de Bitfinex et de Tether, mais aussi il y a des nouvelles informations concernant MakerDAO. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport entre Tether et MakerDAO? MakerDAO a développé un token qui s'appelle le DAI token, qui propose une approche complètement différente et a priori plus décentralisée pour créer finalement une stablecoin et pour maintenir cette indexation ici avec le dollar US. Le système est assez complexe, hein, mais en gros, ça repose sur le crédit et sur la mise en le dépôt de caution en Ether. En gros, l'idée, c'est que vous pouvez créer des tokens DAI en déposant de l'Ether sur un smart contract. Et en faisant ça, vous créez ce qu'on appelle une CDP. Alors, accrochez-vous à vos slips pour le sigle. C'est ce qu'on appelle une collateralized debt position. En gros, c'est encore un produit financier, mais qui, encore une fois, est indexé et créé par un smart contract sur une blockchain. L'idée, c'est que le nombre de DAI que vous pouvez obtenir pour chaque Ether que vous déposez dépend d'un taux de liquidation qui définit, en gros, le niveau de risque au-delà duquel le système peut liquider votre dette. Ça veut dire que vous pouvez évidemment rembourser les DAI qu'on vous a prêtés. Auquel cas vous allez pouvoir récupérer le dépôt de caution que vous avez fait au départ. Maintenant, si vous remboursez pas et que l'Ether que vous avez déposé en caution, la valeur de cet Ether-là chute en dessous d'un certain niveau, le système, le smart contract qui gère le DAI token, a la possibilité automatiquement de liquider votre dette. Ça veut dire quoi, liquider votre dette? En gros, ça veut dire revendre détruire les DAI qui vous avaient prêté et puis revendre l'Ether que vous aviez déposé en caution pour couvrir la perte. Donc ça, c'est un système qui est automatique, ça nécessite pas d'intervention humaine. Il y a d'autres interventions humaines à d'autres endroits, mais celle-là en tout cas, elle est complètement automatique. Donc a priori, le système est capable de se protéger lui-même contre une chute rapide du cours de l'Ether. Et c'est comme ça, enfin c'est un des mécanismes par lequel il maintient cette indexation au final entre 1 dollar égale 1 DAI token. L'idée aussi, c'est que quand vous remboursez un prêt en DAI, en plus de rembourser les DAI, vous devez aussi payer des frais de stabilité. Alors en gros, c'est un taux d'intérêt, sauf que au lieu de payer un taux d'intérêt en DAI eux-mêmes, vous devez le payer dans un autre token, qu'on appelle le MKR, qui est indexé, lui, par contre, sur le marché de l'offre et la demande. Vous pouvez acheter et vendre des tokens MKR sur certaines plateformes d'échange. Donc vous remboursez vos DAI qu'on vous a prêtés pour récupérer votre mise en Ether et en plus de ces DAI là, vous devez payer des frais de stabilité en MKR. Et ces frais de stabilité que vous payez quand vous remboursez votre crédit sont fonction de la durée du crédit et sont brûlés par le système, ce qui au passage augmente aussi la valeur du token MKR lui-même. Et le truc, c'est que plus vous avez de tokens MKR, plus vous avez de voix dans la gouvernance du système dans son ensemble. Donc ces tokens MKR vous donnent un droit de vote finalement dans les décisions qui sont prises à partir de tout le système MakerDAO. Et tout ce système-là est informé derrière par des oracles qui sont élus par les porteurs de token MKR, justement, c'est-à-dire des utilisateurs humains, en gros, qui introduisent, qui spécifient la valeur de l'Ether, la valeur d'un Ether en dollars, dans le smart contract, qui est une des variables, évidemment, utilisées par le smart contract pour sa propre gestion. Maintenant, ce qui est original dans le système, c'est que, encore une fois, la liquidation de ces CDP, donc de ces dettes collatéralisées, elle est automatique. Dès que la valeur en dollars de la caution déposée en Ether n'est plus suffisante pour couvrir le montant prêté en DAI, la dette est liquidée automatiquement. Il n'y a pas d'intervention humaine là-dedans, c'est complètement dans le code du smart contract. La seule intervention humaine, comme je le disais, est donc fatalement légèrement centralisée, ce sont les oracles qui informent le smart contract sur la valeur d'un Ether en dollars. Et en plus, autour de tout ça, vous avez un système de boucle de rétroaction basé sur, en gros, des taux de prêt et des taux de liquidation qui sont conçus pour essayer de maintenir ce fameux taux 1 DAI token égale 1 dollar. Encore une fois, c'est un système assez complexe. Et d'ailleurs, je vous ai mis des liens sur le blog vers deux petits articles super bien foutus qui vont un petit peu plus dans le détail sur comment tout ça fonctionne. Je vous avoue que, n'étant pas non plus un expert de la finance et des maths, j'y comprends pas tout non plus, hein. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est très sophistiqué et que c'est à la hauteur de l'enjeu qui lui-même est important, hein, puisqu'on parle en gros de la promesse d'une crypto-monnaie qui est à la fois stable ou du moins aussi stable que l'actif sur lequel elle est indexée. Hein, bon, ça, c'est quand même un truc qui m'inquiète, c'est que avec ce genre de système, qu'est-ce qui se passe le jour où la valeur du dollar lui-même s'effondre dramatiquement? A priori, le système est conçu pour absorber les variations dans les deux sens. Il y a même un mécanisme de liquidation totale au cas où un événement cataclysmique et imprévisible se produit. Mais bon, ça reste quand même un petit peu tendu et la principale supposition, c'est que c'est la crypto-monnaie elle-même qui est volatile. Mais ça peut aussi arriver à la monnaie sous-jacente, enfin, ou à l'actif non-crypto sur lequel on s'appuie. Maintenant, voilà, la raison pour laquelle je vous parle de stablecoin dans cet épisode, c'est justement parce qu'il y a eu beaucoup d'actualités, comme je le disais, autour de ça, à commencer par l'actualité autour de l'affaire Bitfinex et Tether, mais aussi parce que il se trouve qu'il y a beaucoup de mouvements en ce moment, et même de drama d'une certaine manière, autour de MakerDAO. Alors, comme je le disais avant, un des principaux leviers pour influencer l'indexation du DAI sur le dollar, c'est le taux des frais de stabilité. En gros, l'idée, c'est que si vous augmentez le taux d'intérêt, c'est-à-dire le taux que les gens doivent payer en plus de rembourser leur DAI, ceux qui ont déjà contracté un prêt seront plus motivés à rembourser leur DAI rapidement et il sera moins intéressant d'emprunter. Ce qui aura pour effet, mécaniquement, de diminuer la quantité de DAI en circulation et donc d'augmenter la valeur de chaque DAI. Inversement, si vous diminuez le taux, les frais de stabilité, vous augmentez mécaniquement le nombre de DAI en circulation et donc vous diminuez la valeur de chaque DAI. Et c'est un petit peu les deux mécanismes par lesquels on peut jouer sur la valeur d'un DAI pour essayer de lui faire coller au plus près possible à un DAI égal un dollar. Or, ces derniers temps, la valeur d'un DAI en dollars s'éloigne dangereusement du dollar, justement. Ce qui pousse le système vers une augmentation du taux des frais de stabilité que les emprunteurs doivent payer quand ils remboursent leurs prêts. Et ceux qui votent pour définir ce taux, donc ceux qui détiennent les tokens MKR, comme vous l'aurez compris, c'est les mêmes tokens avec lesquels vous devez payer les frais de stabilité. Alors je sais, c'est compliqué, tous ces mécanismes qui s'influencent les uns les autres, mais c'est l'essence même de la théorie des jeux qui se joue ici. C'est tous ces mécanismes-là sont conçus spécifiquement pour créer les bons incentives, les bons motivateurs pour que les gens aillent dans un certain sens et pas dans un autre. Il se trouve que ces derniers mois, plusieurs augmentations successives de ce taux ont été votées, donc justement par les détenteurs de MKR, jusqu'à arriver aujourd'hui à un taux de 16,5%. Et il a tendance à changer toutes les semaines, puisque maintenant toutes les semaines, ils font un vote pour décider est-ce qu'on continue à l'augmenter ou pas. L'objectif, encore une fois, étant de faire augmenter la valeur d'un DAI en dollars jusqu'à ce qu'il atteigne de nouveau ce fameux dollar et qu'on reste collé au plus près à un DAI égal un dollar. Il se trouve que malgré ces augmentations successives, le DAI reste aux alentours de 96-97 cents pour un DAI. Alors vous allez me dire, c'est pas dramatique, c'est quand même 3 ou 4% de défauts, c'est quand même pas négligeable. À tel point que, justement, d'autres mécanismes commencent à être envisagés pour rétablir l'indexation, comme par exemple de jouer sur le plafond de prêt qui est prévu dans le DAI token, c'est-à-dire qu'en gros, il a été pris comme décision de ne jamais prêter plus de 100 millions de DAI, donc de ne jamais émettre plus de 100 millions de DAI. Forcément, cette quantité maximum, c'est un peu comme les 21 millions de Bitcoin qui seront en circulation au final, ça joue aussi sur la valeur d'un DAI. Donc il y a aussi des gens qui proposent en tout cas que on arrête de ne jouer que sur le taux des frais de stabilité, mais qu'on aille aussi chercher du côté de ce plafond. Mais là encore, ça crée des dissensions qui commencent à apparaître dans la gestion des institutions qui s'occupent du développement de MakerDAO. Il y a un certain nombre de fondations et de groupements qui gèrent tout ça. Et évidemment, tout ça crée des jeux de pouvoir, des jeux d'influence qui pourraient au final s'avérer dangereux. Donc c'est définitivement un problème compliqué. Et encore une fois, la gouvernance et la centralisation sont au cœur de tous ces débats. Donc c'est une affaire à suivre de très près. Il va falloir voir comment le MakerDAO et le DAI Token se sortent de ce problème dans lequel ils sont, sachant que encore une fois, ils ont démontré qu'il n'y avait pas qu'une seule approche pour créer une stablecoin. Donc leur succès ou leurs échecs vont être importants pour le développement de ce genre de token. Voilà pour ce qui est de MakerDAO, de Bitfinex et de tous ces problèmes de stablecoin. On va passer à une autre crypto-monnaie maintenant. On va parler un petit peu de Bitcoin SV qui a tendance à être boycotté. Boycotté par qui, me direz-vous ? Alors, revenons dans l'univers merveilleux de Bitcoin, justement, ou plutôt dans l'univers d'un de ses nombreux forks, à savoir Bitcoin SV. Pour rappel, en 2017, suite aux différences d'opinion autour de la meilleure stratégie pour augmenter la vitesse des transactions Bitcoin, vous aviez un camp qui préférait ne pas changer la taille des blocs, mais optimiser la capacité des blocs, grâce à une mise à jour qu'on a appelée Segregated Witness ou SegWit2x. Et de l'autre côté, vous aviez un camp qui préférait simplement augmenter, donc ne rien changer à la façon dont les données sont stockées dans les blocs, mais qui préférait augmenter purement et simplement la taille de chaque bloc au-delà du fameux mégaoctet qui était de rigueur à l'époque. Et c'est ainsi qu'était né le hard fork Bitcoin Cash qui avait créé cette scission dans la communauté Bitcoin. Et puis au sein même de la communauté Bitcoin Cash, de nouvelles dissensions étaient apparues, donnant naissance à une nouvelle scission encore entre d'un côté Bitcoin ABC et de l'autre côté Bitcoin SV. SV voulant dire Satoshi's Vision. Vous allez voir pourquoi c'est important. Il se trouve que Bitcoin SV est notamment porté par un gars qui s'appelle Craig Wright, dont on a déjà parlé évidemment dans les épisodes précédents, qui est ni plus ni moins qu'un Australien qui prétend, depuis quelques années déjà, être lui-même Satoshi Nakamoto. Rien que ça. Le problème, c'est qu'il ne l'a jamais prouvé. Alors qu'il serait relativement simple de le faire, il suffirait qu'il signe une transaction avec la clé privée qui correspond à la clé publique dont on sait qu'elle appartenait à Satoshi Nakamoto, hein, puisqu'on a toutes ces informations-là dans les premiers blocs de Bitcoin. Donc il suffirait qu'il signe une transaction avec ça et on serait garanti que c'est lui. Sauf qu'il l'a jamais fait. Donc il ne fait que prétendre qu'il est Satoshi Nakamoto, mais personne ne le croit plus parce qu'il l'a jamais prouvé. Et évidemment, vous avez de nombreux acteurs de l'écosystème qui ont accusé Wright, qui l'ont exposé en disant que c'est un imposteur et qui cherche tout simplement à pumper, donc à gonfler artificiellement la valeur d'abord de Bitcoin Cash, puis maintenant de Bitcoin SV, puisque c'est lui qui a d'une certaine manière déclenché ce fork et cette création de cette crypto-monnaie sécessionniste, si on veut. Et encore une fois, il s'appuie sur ces affirmations. Évidemment, quand vous prétendez être Satoshi Nakamoto, pour ceux qui vous croient, ça vous donne un sacré crédit. Jusqu'ici, la seule réponse de Wright vis-à-vis de ses détracteurs, ça a été de les attaquer personnellement. Dernière attaque en date, contre celui qui se cache derrière le pseudonyme Hodlonaut, dont vous vous souviendrez peut-être qu'il est la personne qui avait récemment créé le Lightning Torch sur sur Bitcoin, et qui avait aussi accusé publiquement sur Twitter Wright d'être un imposteur. Ce à quoi Wright a répondu tout simplement en proposant une prime à qui révélerait la véritable identité d'Hodlonaut. Donc une attaque personnelle directe. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a plusieurs membres importants de l'écosystème qui sont montés au créneau pour condamner cette attaque de Wright, et à commencer par les CEO de Binance, de Shapeshift et de Kraken, qui sont trois places de marché qui ont successivement annoncé récemment le delisting, c'est-à-dire la fin du trading des paires qui incluent le Bitcoin SV sur leurs plateformes respectives. C'est évidemment un coup dur pour toute la communauté derrière Bitcoin SV, pas seulement pour Craig Wright, puisqu'une crypto-monnaie listée sur moins de places de marché perd mécaniquement de sa valeur en étant moins liquide. Et évidemment, les défenseurs de Bitcoin SV crient évidemment à la censure et au scandale, sans pour autant oser encore se désolidariser de celui qui a finalement créé la monnaie qu'ils défendent. Évidemment, on pourrait considérer que c'est un peu ironique de se demander si ce delisting constitue effectivement une forme de censure, alors que l'un des principaux arguments de vente des crypto-monnaies, c'est la résistance à la censure. Maintenant, d'un autre côté, d'autres ont mis en évidence le fait que la résistance à la censure prônée par les crypto-monnaies, ça se rapporte à l'impossibilité d'interdire à quelqu'un de posséder ou d'échanger de la crypto-monnaie avec d'autres utilisateurs du système. Mais il y a absolument rien qui a à voir avec la possibilité pour une entité privé comme Binance ou Kraken d'autoriser ou d'interdire le trading de cette crypto-monnaie comme contre d'autres monnaies fiat. Encore une fois, les places de marché, elles font pas partie des crypto-monnaies à proprement parler. On rappelle, elles sont pas nécessaires à leur fonctionnement, elles fluidifient certainement, mais elles sont pas nécessaires à son fonctionnement. Elles constituent juste un pont entre les crypto-monnaies d'une part et les monnaies fiat d'autre part. En gros, de la même manière que la liberté d'expression aux États-Unis interdit à un gouvernement de vous emprisonner pour avoir exprimé une idée, mais ça n'empêche absolument pas une entreprise privée de refuser de vous servir comme client sur base de ces mêmes idées. Donc la liberté d'expression, elle a aussi, elle est limitée par la liberté d'entreprise, si on veut. Maintenant, on peut pas lier non plus l'influence de ces places, de ces plateformes d'échange centralisées, ou encore la valeur, le fait que la valeur des crypto-monnaies dépend grandement de leur listing sur ces plateformes d'échange. Donc, jusqu'à ce qu'on trouve un moyen complètement décentralisé de jouer le rôle de ces plateformes d'échange, ce serait quand même bien qu'elles soient tenues à la transparence et à une certaine cohérence en ce qui concerne les règles selon lesquelles elles listent ou elles délistent certaines crypto-monnaies. Maintenant, on y revient encore. Dès que vous introduisez la moindre once de centralisation dans ces systèmes décentralisés, c'est là que se catalyse, que se focalise tous les problèmes. Donc, on va avoir du mal à se débarrasser de ces trucs-là, mais ça devient, enfin, encore une fois, c'est évident que c'est nécessaire. Donc, c'est pour ça que je voulais quand même revenir là-dessus. Actualité suivante, on va reparler d'ENS. On avait parlé abondamment dans l'épisode 22 que je vous invite du coup à réécouter si vous voulez avoir plus de précision. Mais pour rappel, ENS, c'est ce protocole qui permet d'enregistrer des noms de domaine aujourd'hui en .eth, .lux ou .xyz et de les associer avec soit des adresses Ethereum de compte ou de smart contract, soit des hashes IPFS, soit d'autres éléments comme ça liés aux crypto-monnaies. Enfin, ou blockchain pour être plus exact. L'idée, c'était de créer une alternative décentralisée au système DNS du web classique. Aujourd'hui, pour réserver un nom de domaine ENS, vous devez passer par un système d'enchères qu'on appelle les enchères Vickery, qui prend environ 5 jours, et à l'issue duquel le vainqueur de l'enchère verrouille un petit montant en Ether pour conserver le nom de domaine à son nom et administrer les redirections de ce domaine. Ce qui se passe, c'est que début mai prochain, une nouvelle mise à jour du système ENS va rentrer en action qui devrait modifier notamment deux aspects clés du système, enfin trois même. D'abord, il faut bien prendre en compte que cette mise à jour, elle était prévue dès le lancement du système. Donc c'est pas une surprise, on savait qu'on allait en arriver là. Mais il se trouve que ça fait 2 ans que le système existe et donc on arrive à la date à laquelle cette mise à jour va être mise en action. Alors, d'abord, premier changement qui va avoir lieu, c'est que le système d'enchères Vickrey, donc ce fameux système d'enchères qui prend 5 jours pour l'attribution des domaines, devrait être remplacé par un système en 2 transactions qui ne prendrait plus qu'une minute ou deux. Donc, on va avoir une attribution des noms de domaine qui va être beaucoup plus rapide et efficace. La raison pour laquelle on avait mis en place ces enchères Vickrey au départ, c'était que on voulait garantir une certaine justice du système d'attribution des noms de domaine et permettre d'une certaine manière à tout le monde de réserver les domaines les plus intéressants. Maintenant, 2 années sont passées depuis le lancement d'ENS en mai 2017 et il se trouve qu'on estime que les domaines les plus intéressants ont déjà été réservés, ce qui devrait permettre de passer à un système un peu plus expéditif. Au total, pour histoire d'avoir une idée des échelles, il y a à peu près 800 000 enchères qui ont été démarrées, 3,2 millions d'éthers qui ont été déposés d'une certaine manière dans ces enchères, et au final, environ 170 000 éthers qui sont aujourd'hui bloqués dans le système ENS pour la réservation de noms de domaine. Donc ça fait quand même pas mal de noms de domaine, et voilà, donc il est temps de passer à autre chose. Deuxième modification importante qui rentrera en action le 4 mai prochain, c'est que maintenant les domaines seront modélisés comme des tokens non fongibles. Donc pour ceux qui ont suivi un petit peu les épisodes précédents, ce qu'on appelle par token non fongible, ce sont ces fameux tokens ERC-721 ou NFT pour non-fungible tokens, qui est un standard qui définit comment on peut échanger et transmettre voilà ces tokens non fongibles. Et encore une fois, tout ça c'est un standard Ethereum, on est bien sur la blockchain Ethereum ici. Donc l'avantage de ça, c'est que ça permettra librement d'échanger et de se vendre directement les uns aux autres ces noms de domaine comme étant des tokens NFT. Et enfin, dernière modification importante, jusqu'à maintenant, en dehors du montant en Ether que vous deviez laisser bloquer pour conserver un nom de domaine, il n'y avait pas de frais de garde, comme pour un nom de domaine classique. Ce qui fait que ça ne coûte pas plus cher de conserver un nom de domaine plus longtemps, d'où une espèce de phénomène d'accaparement, c'est-à-dire que une fois que vous avez un nom de domaine, vous ne le lâchez plus, de toute façon, ça ne vous coûte plus rien. Il se trouve que dans le nouveau système, en tout cas pour les noms de domaine au-delà de 7 caractères, vous devrez maintenant, et à partir du 4 mai 2020, donc dans un an, vous devrez payer $5 par an pour garder le domaine. Si vous payez pas, ben le domaine sera tout simplement libéré et s'il intéresse quelqu'un d'autre, ils pourront le réserver à leur tour. Au passage, on estime que ce système de loyer devrait amener environ $250 000 par an dans les caisses de l'organisation qui gère ENS, avec, à terme, des décisions à prendre pour savoir comment allouer les fonds. Pour info, le système est administré aujourd'hui par 7 personnes, par une espèce de wallet multi-signature, qui est géré par 7 personnes, avec 4 personnes de ces 7 suffisantes pour prendre une décision. Ça vous rappelle rien ? Vous la sentez venir, la controverse, la centralisation là-dedans ou pas ? Alors évidemment, ils disent déjà que l'objectif à terme, c'est de décentraliser complètement et de se passer de ce wallet multisignature, mais toujours est-il que pour l'instant, c'est ça qu'on a. Et avec $250 000 par an qui rentrent dans ces fonds-là, il faut parier que ça va poser des questions. Toujours est-il que le nouveau système entrera donc, comme je le disais, en action le 4 mai prochain, le 4 mai 2019, et les possesseurs actuels de domaine ENS auront un an pour migrer sur le nouveau système, le nouveau registrar. Ayant plusieurs domaines ENS moi-même, dont le domaine proofofcast.eth, sur lequel vous pouvez envoyer de l'Ether pour soutenir la mission si vous le souhaitez, je vais devoir moi-même migrer ces domaines-là et je vous dirai comment ça marche. Mais en gros, je vous ai mis le lien vers la procédure de migration sur le blog. Ça a l'air assez simple. En gros, vous devrez vous rendre sur manager.ens.domains, enclencher la migration de votre domaine sur le nouveau registrar, ce qui vous permettra au passage de récupérer votre dépôt le dépôt qui était bloqué dans le smart contract ENS. Mais en même temps, ça mettra une date d'expiration au 4 mai 2020 sur votre domaine. Et à partir du 4 mai 2020, vous devrez payer $5 en Ether chaque année pour conserver votre nom de domaine. Sachant qu'évidemment, du coup, la première année est donc gratuite. Maintenant, si vous migrez pas votre domaine avant la date du 4 mai 2020, vous pourrez toujours récupérer votre dépôt, mais par contre, votre domaine redeviendra disponible pour la réservation. Donc voilà, si vous avez des domaines ENS, vous êtes informé, vous aurez été prévenu, vous aurez un an à compter du 4 mai pour vous mettre en règle avec le nouveau système. Et c'était tout ce que je voulais dire sur ce sujet d'ENS. Maintenant, dernière actualité à côté de laquelle je ne pouvais pas passer étant donné la nature francophone de ce podcast, c'est l'actualité qui concerne la France et notamment la loi Pacte. Alors vous avez peut-être entendu parler de cette fameuse loi Pacte dans d'autres contextes. Il se trouve que parmi les mesures mises en avant dans cette loi Pacte, le Parlement français vient de voter plusieurs mesures en faveur du développement des crypto-monnaies et des entreprises basées sur qui utilisent ces crypto-monnaies. À commencer, donc première mesure, par l'obligation pour les institutions bancaires de servir les entreprises crypto du moment que celles-ci acceptent d'être soumises à régulation. Avec la charge pour la banque de justifier leur décision s'ils refusaient de servir ces sociétés. Jusqu'à maintenant, c'était aux sociétés de justifier qu'elles rentraient dans le cadre légal. À partir de maintenant, à partir du moment où elles acceptent d'être régulées, les banques seront obligées de les servir ou alors elles devront justifier leur refus. Deuxième mesure mise en avant, c'est la création d'une espèce de visa ou de certification qui sera optionnelle, mais qui permettra d'apporter une espèce de cachet officiel derrière non seulement certaines levées de fonds participatives de forme ICO, donc les Initial Coin Offering, hein, ces espèces de levées de fonds organisées sur la blockchain par des smart contracts, mais aussi pour les plateformes d'échange qui voudraient opérer depuis la France. Et enfin, dernière possibilité, dernière mesure phare de ce nouveau cadre légal, c'est la possibilité explicite pour les fonds d'assurance et certains investisseurs institutionnels, que ce soit assurance vie, fonds de pension ou capitaux risqueurs, d'investir de manière plus importante dans des crypto-monnaies et des assets crypto en général. Alors, la première mesure dont on parlait, c'est-à-dire le concept de garantie de service bancaire, c'est une mesure très importante et voire même avant-gardiste quand on considère que c'est justement cette incertitude autour des risques de réputation pour les banques qui crée tant de problèmes de verrouillage de fonds aux États-Unis par exemple. On a parlé dans les épisodes précédents de Quadrigas AX qui s'est retrouvé face à ces difficultés-là, on a parlé de Bitfinex aujourd'hui. Ok, même problème, 850 millions de dollars qui ont été bloqués par un opérateur financier. Tous ces trucs-là, ça vient justement de cette incertitude légale autour de l'obligation ou pas des banques de servir les entreprises crypto. Donc là, cette garantie bancaire-là, elle est relativement importante. Alors... il y a d'autres mesures, hein, je l'ai dit, pour ce qui est de la certification, du visa, ça va prendre un peu de temps. Alors, l'application des mesures d'une manière générale, là, elles ont été votées par le Parlement le 11 avril. Maintenant, ça va prendre plusieurs mois déjà entrer en action, puisqu'on doit maintenant sortir les décrets d'application. C'est comme ça que ça fonctionne en France. Le gouvernement français propose quand même déjà que ces nouvelles règles servent de modèle dans toute l'Union européenne. Forcément, ils montent un petit peu sur leurs grands chevaux, attendent 2 secondes. Que ce soit mis en œuvre et puis on verra comment ça marche. Mais bon, voilà, forcément, ils se font un petit peu mousser les pépères. À côté de ça, le processus de candidature pour la nouvelle certification, encore une fois, qui sera optionnel, mais le processus d'application ne devrait pas ouvrir avant la rentrée. Maintenant, il y a déjà un certain nombre d'acteurs, y compris des acteurs non français, qui se bousculent déjà au portillon pour être parmi les premiers à bénéficier de ce nouveau visa. Voilà. D'un autre côté, il était important pour le législateur que ce visa soit optionnel en tenant compte de tous les projets complètement décentralisés qui n'en auraient pas besoin et qui devraient pas être interdits pour autant. Donc ils ont fait ça quand même assez intelligemment, je trouve. Maintenant, pour ce qui est de la possibilité accrue pour les fonds de pension notamment d'investir en crypto-monnaie, c'est une possibilité qui est encore toute théorique parce que ça reste un investissement très risqué et dont justement la mitigation des risques dépend d'autres facteurs comme par exemple des agences de notation, des taux officiels de conversion, etc., etc. Mais ce qui est intéressant par contre, c'est que cette mesure concerne également d'autres types d'investisseurs, comme les capitaux risqueurs, qui pourront investir jusqu'à 20% de leurs fonds en gestion en crypto-monnaie. Donc ça devrait aussi favoriser le financement de certaines startups du secteur. Donc tout ça crée de fait un environnement très favorable à cette industrie. On est encore loin de ce que propose la Suisse ou Malte, par exemple. Au passage, j'attends toujours la mise en application de ces lois qui ont été votées par Malte courant d'année 2018. Mais en tout cas, voilà, c'est bon de voir que dans certains pays, les choses se décoincent un petit peu. Donc encore une fois, affaire à suivre pour ce qui est de la France. Et voilà qui conclut cette partie consacrée à l'actualité. Donc je vous rappelle au passage de nouveau que s'il y a des choses là-dedans qui sont pas claires, si vous avez des questions, des demandes de précision ou tout simplement des précisions vous-même à apporter, n'hésitez pas à le faire via les commentaires sur le blog de proofofcast.com ou sur les réseaux sociaux, sur Twitter ou sur Facebook, proofofcast. Vous pouvez aussi retrouver mon ami Plume sur son blog plume.net. Vous pouvez me retrouver à la fois sur Twitter à Sarbogast ou sur Les Technos aussi, un autre podcast auquel je participe, lestechnos.be. Et je vous rappelle aussi que vous, si vous voulez, vous pouvez soutenir l'émission financièrement en envoyant vos petits dons en Ether à l'adresse proofofcast.eth. Sur ce premier prochain épisode, l'épisode numéro 27 du Proof of Cast sera diffusé le 11 mai prochain. Et en attendant, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici et je vous souhaite une bonne continuation. À bientôt, au revoir.